le fait que aujourd'hui nous sommes la période après Pâques. Pâques, dans la tradition judéo-chrétienne, si on peut dire, commémore la résurrection de Jésus-Christ, nous l'avons déjà dit, et c'est dans le christianisme quand même la fête la plus importante. Comme j'ai dit la semaine dernière, on n'en a pas parlé plus que ça, mais bon, c'est quand même la période la plus importante. Et pour le monde actuel, ben, comme Daniel l'a dit, hein, c'est chocolat, cloche, latin, œuf, tout ce qu'on veut, mais on est quand même dans la période après Pâques et avant l'ascension, qui se fera 40 jours après Pâques. Donc, et nous l'avons, cela, on le sait, parce que dans le Nouveau Testament, à l'époque, ils n'en savaient rien, eux. Mais nous, j'allais dire, on a cette grâce d'avoir le Nouveau Testament. Et dans cette période, les évangiles nous rapportent quand même quelques éléments, très peu d'éléments, où Jésus apparaît quand même, il apparaît aux femmes de grand matin, le premier jour de la semaine, il apparaît aux 11, parce que Judas n'est plus là, aux autres disciples qui sont avec les 11, il apparaît à Pierre, il apparaît à Thomas, et à plus de 500 frères à la fois, c'est ce que Paul nous décrit dans l'Épître aux Corinthiens. Jésus est ressuscité, et nous avons parfois fâcheuse tendance à mettre les apparitions en dehors de Pâques. Jésus est apparu ben, plus loin. Mais quand nous lisons attentivement, la plupart de ces apparitions se font le même jour que la résurrection. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et je vous propose de parcourir juste une de ces rencontres d'après Pâques chrétienne. Dans Luc 24, voilà ce que nous lisons, Luc 24, versets 13 à 27. Passage qu'on connaît, hein. Luc 24, 13. Je lis dans la version second 1910. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. C'est plus ou moins 12 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» Le texte original et la version Nouvelle Bible Second dit, « Ils s'arrêtèrent assombris, l'air sombre. » Un peu attristé, mais c'est un peu plus profond qu'attristé, c'est sombre, tracassé, quoi. Verset 18, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est arrivé ce jour-là ?»« Quoi, leur dit-il ?» Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour lui faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur étaient apparus et qu'ils ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que disaient les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant ce texte et te demander vraiment de mettre ton message en nous, dans nos cœurs. Nous puissions vraiment ouvrir tout pour toi, pour t'écouter, pour t'entendre. Encore une fois, Seigneur, que tout te revienne, toute la gloire te revienne à toi seul. Amen. Qui de nous n'est pas au courant de ce qui s'est arrivé le 11 septembre 2001? On a déjà parlé le 11 septembre 2001, les fameuses tours hein, où les avions sont entrés en collision en direct, on les a vus à la télévision en direct à New York, et qui n'a pas non plus en tête le 13 novembre 2015 à Paris, les fameux attentats, et plus près de chez nous, le 22 mars 2016 à Bruxelles. Tous ces attentats nous ont marqués. On le sait. La folie des hommes exprimée par des actes de barbarie atroces, on peut soustraire de nos yeux et de nos pensées des faits aussi marquants que la mort des innocents. Bon, il y a aussi tout ce qui est guerre actuellement. On ne peut pas oublier ça. Mais pourtant, dans notre texte, pourtant en Israël, dans notre texte, il en est un qui n'est pas au courant de ce qui vient de se passer. Il y a seulement 3 jours, et encore 3 jours juifs, enfin, les juifs comptent en jours, même si c'est une heure, pour eux c'est un jour. Mais il s'est passé quand même quelques heures de cette journée, mais Jésus ne dit savoir de quoi il en retourne. Apparemment, Jésus n'est pas au courant de ce qui s'est passé. C'est le texte qu'il dit. Pourtant, 3 crucifiés la veille du sabbat, et en plus en pleine préparation de la fête de Pâques juive, qui commémore la sortie d'Égypte, tout le monde en parle. Cette journée n'est quand même pas passée inaperçue. Il y avait plein de monde, déjà tous ceux qui étaient là quelques jours avant et qui criaient « Hosanna !» C'était tout cela. Et puis il y a ceux qui criaient « Crucifie !» Ils étaient tous là. Tous ces voyageurs assoiffés de sang devant les croix, devant la multitude aussi des disciples qui se faisaient tout petits pour ne pas subir le même sort. Tous ces juifs venus à la fête, tous ces romains qui se moquaient, sans parler de ces principaux sacrificateurs et magistrats, hommes de religion et hommes de loi. Ils étaient tous là. Toute cette foule qui se trouve à un certain moment dans le noir, en pleine journée, en plein après-midi, et qui vit directement un tremblement de terre, sans oublier tous ceux qui, dans le temple, qui voient le voile se déchirer en deux, du haut vers le bas. C'est quand même pas rien. Comment peut-on oublier ? Et toi, es-tu le seul, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est arrivé ce jour-ci ? Et Jésus répond, quoi ? C'est pas moi qui le dis, hein ? La Bible. Quoi ? Déjà qu'il vient de se mêler de la conversation, de quoi vous entretenez-vous en marchant ? Pourquoi êtes-vous si triste ? C'est déjà arrivé de vous faire accoster comme ça par quelqu'un qui demande de quoi vous parlez. Quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Et même quand on est tout seul, quelqu'un qui vous interpelle, suivant nos personnalités, ben, on répond du bout des lèvres avec l'envie de dire « De quoi je me mêle hein ?» Ou « T'es qui toi ?» Ou « Qu'est-ce qu'il veut celui-là » Ou alors on se méfie. Quelqu'un qui vient nous parler, éventuellement, c'est qu'il se méfie. Hein, et puis, je ne parle pas ni aux inconnus, ni aux étrangers. Mais quand un événement bouleversant a ébranlé le monde, et ça s'est passé quand même près de chez vous, on en parle. On a quand même parlé du fameux bagarre à charrette, là. Hein, on en a parlé. Étonnamment, nos esprits se libèrent et tout le monde en parle. Même si on ne se connaît pas, on en parle. Et alors on discute, quelle que soit notre identité, notre statut, notre couleur, notre sexe, notre intelligence, notre portefeuille, nos souffrances, tout s'efface, nos tracas sont mis de côté. On en parle. On a l'impression que plus rien n'existe. On est comme aveuglé par la tristesse, peut-être par la colère, par l'incompréhension. Tout ça nous envahit et on ne fait plus de parler de ça. Ukraine, la guerre, seulement à un certain moment, j'oublie Mélissa et tout. Et il n'y avait plus que ça qui nous concentrait. Et c'est ce qui se passe pour nos 2 disciples. Ils ne sont plus concentrés que ce qui vient de se produire. Et la Bible nous dit, ils parlent et ils discutent. Parce qu'on peut parler, blablabla. Et discuter, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il ne faut pas que parler, ils échangent des idées, des opinions, des critiques peut-être, mais ils discutent. Avec la mort de Jésus, meurent aussi leurs espoirs. Pourtant, ils y croyaient, à ce prophète puissant. Puissant devant Dieu, en œuvre et en parole, vous avez remarqué, il est bien écrit en œuvre et en parole. Ce n'est pas un simple beau parleur, hein, Jésus. Il a fait des actes. Il a fait des choses puissantes. Il croyait peut-être que c'était le libérateur qui allait libérer Jérusalem et Israël, aider l'entrée triomphale sur un âne. Ils étaient convaincus que c'était le Messie attendu et qu'il allait tout changer, que c'était le roi des Juifs. Pourtant, il est mort depuis 3 jours. Tout au plus 48 heures, si on peut dire, 3 jours juifs. Et pour eux, la patience est mise à l'épreuve. Quand on espère une libération et qu'elle n'arrive pas, on traîne, on se décourage. Ils ont tout misé sur le prophète de Jérusalem, de Nazareth, pardon, et leur désarroi est grand. Et alors que la fête de Pâques bat son plein à Jérusalem, que nouveau la foule en liesse va être dans la joie, va se remémorer tout, la libération du peuple, nos deux amis, eux, ils vont quitter la ville. Ils vont quitter la ville et se diriger vers Emmaüs. Emmaüs, à part, hein, ce qu'on connaît actuellement, Emmaüs, c'est quand même une ville, et c'est le seul fois où on parle de ce village, Emmaüs. Et c'est en environ, comme je l'ai dit tout à l'heure, distance de 12 km de Jérusalem, située au nord-ouest, en opposition à Jéricho, qui est de l'autre côté, à 27 km. Emmaüs n'est, comme je l'ai dit, cité qu'une seule fois dans la Bible, et se trouve sur le chemin de la direction d'Arimathée. Ça vous parle quand même, hein? Joseph d'Arimathée, c'est pas son nom, hein, d'Arimathée. C'est d'une ville aussi, là. Joseph d'Arimathée. D'où provient ce fameux Joseph, et qui a demandé à Pilate s'il pouvait prendre le corps de Jésus pour le mettre au tombeau. Donc Emmaüs est aussi sur la route, vers Jopé. Ça vous dit peut-être rien. Jaffa, ça parle aussi. Jaffa actuel, hein, où a pris le bateau. Jonas a pris le bateau, etc. Donc tout va partir par là. C'est étonnant. Tout l'évangile va partir par là et pas vers Jéricho. C'est de dire, bon, pourquoi est-ce qu'il parle de Jéricho, quoi, hein? Rien n'est par hasard dans l'écriture. Et si je vous parle de Jéricho, c'est la ville des palmiers, à la réputation douteuse, comme j'ai déjà dit. C'est pour vous rappeler qu'il est parfois dangereux de s'éloigner de Jérusalem. Vous vous souvenez? Quelqu'un descendait de Jérusalem à Jéricho et se fait attaquer. C'est dangereux de quitter un peu Jérusalem, qui par définition est la ville sainte. Et Jésus nous rapporte une histoire que ce fameux homme descendait de Jéricho et en chemin il se rend compte et se fait dépouiller. Et la suite, vous la connaissez, hein, l'histoire dite du bon samaritain. Mais dans notre récit, nos deux disciples s'éloignent également de Jérusalem, du lieu dit saint. Saint, mais pas parfait. Jérusalem, ville sainte, mais pas parfaite. Souvenez-vous de ce que Jésus disait, et dans Luc 13, 34, voilà ce que je vous lis. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Jérusalem, ville sainte. Et le jour de son entrée triomphale, quand Jésus arrive, Luc 19, 42, voilà ce qu'il dit. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura. Souvenez, il pleura sur elle. Il dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Jérusalem, ville sainte, est aveuglée. Elle sera détruite. Mais combien elle est chère aux yeux de Jésus, pour qu'il pleure dessus. Et dans la suite des temps, ben, il nous est décrit une nouvelle Jérusalem, selon l'Apocalypse. Mais si je reviens à quand même nos deux disciples, hein, on ne va pas trop s'éloigner de Jérusalem, nos deux disciples qui se dirigent vers Emmaüs, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Veulent-ils fuir le lieu qui les rend si tristes? Veulent-ils se mettre un peu à l'écart pour réfléchir? Les responsables religieux les ont peut-être tellement écrasés qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Ils se sauvent. Ou même peut-être que les disciples eux-mêmes les ont tellement blessés. L'un se suicide, l'autre le renie, l'autre, les autres, le reste, on n'en parle plus, mis à part ce Jean, le disciple que Jésus aimait, qui reste là. On est peut-être parfois déçu des gens. Ou encore, ils sont profondément déçus. Tout simplement par ce Jésus qui se laisse mourir sans broncher et qui ne donne plus de nouvelles. Aujourd'hui, si on constate, rien n'a changé. Combien s'éloignent des lieux dits saints, mais pas parfaits, et s'en vont vers d'autres chemins en entraînant parfois avec eux leur ressentiment, leur amertume peut-être. D'autres s'éloignent vers d'autres lieux en prenant le risque de se faire agresser jusqu'à presque la mort, sans être secouru par les religieux ni les détenteurs de la loi, sans presque espérer peut-être un bien aimé samaritain. Au mieux, leur excursion pourrait être motivée par la rencontre. On va aller voir Zachée, on va aller voir Bartimée, juste pour se donner bonne conscience et savoir ce que Jésus a fait avec eux. On s'éloigne. Deux directions, je quitte Jérusalem vers Jéricho pour me changer les idées, ou je quitte Jérusalem en parlant, en discutant du problème qui me préoccupe avec au moins un frère et un ami. Mais en chemin, je suis tellement préoccupé que je suis aveugle de Jésus. Il ne le voit pas. Je le vois, mais ne le reconnais pas. Pourtant, il vient me rejoindre. Il vient faire route avec moi. Il est à mes côtés. Il s'intéresse à mes conversations. Il s'y mise dedans même. Et le texte original du verset 17, que j'ai lu dans la Nouvelle Bible Second, nous dit « Quelles sont ces paroles que vous échangez l'un de l'autre en marchant ?» Ils s'arrêtèrent à son bris. Ils sont tracassés. Et Jésus fait route avec les disciples qui quittent Jérusalem et questionnent sur la discussion. Nous nous rendons compte que notre Seigneur, notre Sauveur, qui vient de mourir pour moi, prend la peine de me rejoindre dans mon éloignement. Je m'en vais, je m'éloigne, j'en ai marre, je ne sais pas. Il est avec moi. Un peu comme dans la tempête où la barque des disciples est secouée et où les disciples pensent mourir et que Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Eux ne le reconnaissent pas, là non plus. Ils croient que c'est un fantôme. Ce n'est que quand Jésus dit « ne craignez pas » qu'ils le reconnaissent. Et encore, Pierre demandera encore une confirmation à ce moment-là. « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Ils doutent. C'est quand même incroyable. Jésus, lui, nous déroute, nous étonne, nous surprend. Il fait irruption dans nos vies quotidiennes, sans crier gare, marche avec nous, nous observe et finalement nous interroge. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous dites? Alors, il n'y en a qu'un sujet qui est à l'affiche pour l'instant, c'est les derniers événements vécus. Et Jésus pose la même question. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous discutez? Vous n'avez jamais fait le coup? Deux, trois semaines d'ici, la semaine dernière. Qui dites-vous que je suis? Nous ne savons pas trop bien ce que ces deux hommes allaient faire à Emmaüs. Il ne nous a pas dit, mais l'évangile de Marc nous confirme un événement quand même. Marc 16, 12 et 13 nous confirment l'événement. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. On dit pas que c'est Emmaüs, ils allaient à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. On peut mettre les deux passages en relation. C'est peu probable qu'ils soient plus que ça. Voilà, ils vont se mettre au vert. Ils vont à la campagne. Et après de telles émotions, ils veulent se détendre. Ah, peut-être quelques moments de vacances. Ouf, tu vas souffler un peu. De toute façon, tout est fini. Il est parti, il est mort, on ne le verra plus. Et on fait un arrêt, sans compter que la détermination de Jésus de les ramener à Jérusalem, de les accompagner et de les ramener. Mais d'abord, il les arrête avec cette simple question : de quoi parlez-vous ? Comme si Jésus ne savait pas de quoi il parle. Sérieusement. Tu te rends compte ? J'imagine, il discute avec lui, tu te rends compte, il nous a abandonnés. Pourtant, il avait dit qu'il serait toujours avec nous. Il nous montre des miracles, oui, plus rien. Il disparaît. Les magistrats l'ont condamné, il n'a rien dit. Les Romains l'ont cloué sur une croix, il ne s'est même pas rebellé. Il aurait pu descendre. Le Messie est mort, ben, que sont devenues ses promesses ? Même les promesses de l'Ancien Testament, tout ce qu'ils ont dit. C'est sûr que sa mort, bon, ça n'a pas été naturel, mais quand même, voilà 3 jours et c'est le calme plat. Rien. Nous avons tout quitté pour le suivre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va peut-être quitter mon travail. Nous avons fait de la multitude aussi, nous avons fait des disciples, on a tout suivi. On a tout est fini, il ne nous reste plus qu'à quitter la ville. On n'a plus notre place. Et puis après, on est si vite oublié. Hein. Est-ce vraiment la bonne discussion ? Moi, j'invente parfois des discussions comme ça. De quoi parlez-vous ? Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus, c'est notre texte, hein, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour faire condamner à mort et l'ont crucifié. Or, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voilà le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites, mais ils ne l'ont point vu. Et ça s'arrête. Si ça s'arrête là. Ils ne l'ont point vu. Mais eux, ils le voient. Et ils ne le voient pas. Ils sont tout aussi aveugles que les femmes et que les disciples qui doutent. La discussion tourne autour de l'événement, sans vraiment y croire, sans vraiment voir le vrai intérêt de qui est Jésus. Ils ne le voient pas. Et Jésus, lui, il est là, il les suit. Et il les laisse parler, il les écoute. Il écoute leur récit, oh, ce qui est arrivé au Jésus, tourne à Jésus. Il entend leurs espoirs. Nous espérions que celui qui délivre Israël, il entend aussi leur désespoir. Mais avec tout cela, voilà 3 jours, plus rien. Même au témoignage surnaturel, ils n'y croient pas. Oh, ils ont vu des anges qui sont apparus. Il est attentif aux autres témoignages, il y a des femmes qui étaient là. Jésus, il ne coupe pas la parole, il écoute jusqu'au bout. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Que c'est triste. Quand les disciples sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a plus d'espoir, mais lui, ils ne l'ont point vu. Heureusement, Jésus intervient. Jésus intervient et il nous pousse souvent, parfois dans notre dernier retranchement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça arrive à tout le monde. Comme un orateur disait, il nous laisse aller au bout du bout. Quand il n'y a plus de bout, il y a quoi de bout ? Et il va jusque-là. Il te laisse aller jusque-là. Et dans tout ce que nous avons vécu, est-ce qu'on l'a vu ? Est-ce qu'on a vu sa main ? Et on entend souvent parfois dans les grandes catastrophes, mais où est Dieu dans tout ça ? Il est où ? S'il existait, il ne permettrait pas cela. On nous a montré bien des événements à la TV pendant des jours et des jours, mais où est Dieu ? Je me souviens d'un cosmonaute, certainement, j'ai entendu parler, le cosmonaute russe qui arrive là-bas une des premières fois dans le ciel. J'ai allé chercher Dieu, mais je ne l'ai pas trouvé. Ok. Peut-être pas chercher à la bonne place, hein. Et puis, il y a quelques événements qui m'ont été rapportés lors des attentats de Bruxelles. On aurait pu lire aussi où est Dieu, qu'a fait Dieu. Et il y a d'autres témoignages dont mon neveu, il prend toujours le train et le métro pour se rendre à son travail à Bruxelles. Et ce jour-là, à 5h du matin, il décide de prendre sa voiture. Pourquoi ? Et puis il discute avec une collègue qui garde toujours sa voiture à une station de métro et ainsi finit le trajet à l'aise, comme ça elle est tranquille. Et ce jour-là, elle ne trouve pas de place de parking. Elle continue en voiture. Et puis une autre personne se trouvait dans le troisième rame de métro quand la bombe a détruit la deuxième. Et puis elle se dit, elle voit un trou, elle sort et elle tombe dans les bras de son frère. Et dans l'église de mes parents se trouve une conductrice du métro. 15 minutes avant, elle était là. Elle échappe. Et moi-même, 5 jours avant, je passais là aussi, parce que j'allais à la faculté. Dieu est là aussi. Et vous allez me dire, d'accord, oui, il y a toutes les autres victimes. Mais il y a des cas, il y a des témoignages. Alors, est-ce qu'on n'entend pas non plus aussi les sanglots de Dieu? Dieu qui pleure. Mais ils ne l'ont pas vu. Alors pouvons-nous dire que Dieu n'a rien fait ? On a lu, il témoigne par une nature exceptionnelle, il nous donne la Bible qui traverse les siècles, où on trouve Moïse et les prophètes. Et pour mettre le comble à son amour, il abandonne son fils unique aux mains des hommes qui cracheront dessus, le tueront, oserais-je dire, l'assassineront. Par nos fautes, par nos péchés, par notre aveuglement, par notre surdité, par notre orgueil, par notre entêtement, nous avons crucifié le Messie. Mais est-ce qu'on a bien vu ? Heureusement, la mort n'a pas eu raison de lui. Il est sorti du tombeau. Ah, il a fallu patienter 3 jours. Mais il est ressuscité. Et malgré ça, ils ne l'ont pas vu. Et si on continue notre texte, Luc 24, verset 25, alors Jésus leur dit, c'est la suite de notre texte, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit des prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et la nouvelle, le Bible second, rapporte les paroles de Jésus, « Que vous êtes stupides !» Le texte original, « Ô sans intelligence, et lent par le cœur, pour avoir la foi en toutes ces choses qu'ont dites les prophètes. Ô homme sans intelligence, ô homme stupide !» Pourtant, l'intelligence est utile pour comprendre, pour être sensé, pour raisonner valablement. Mais il faut que ça descende au cœur. Le cœur, organe vital pour l'homme, est le centre des sentiments le plus fort, l'amour. La foi, sans quoi nous ne pouvons croire en Dieu et en Jésus son Fils, est décrite par les prophètes. Si ce que je lis avec juste mon intelligence de la Bible ne passe pas par mon cœur, qui aime, il n'en découlera pas la foi. Qui croit ce que ces écrits disent de Dieu. Je répète la phrase. Si ce que je lis de notre avec mon intelligence de la Bible ne passe pas par mon cœur qui aime, il n'en découlera pas la foi qui croit que ces écrits disent la vérité de Dieu. Autrement dit, si je lis la Bible sans intelligence, simplement, bon, comme un livre quelconque, comme un livre d'histoire, et que je ne prends pas les paroles avec mon cœur, et ce que je lis ne peut pas m'amener à la foi. Évidemment, c'est le Saint-Esprit qui éclaire. Parfois, une belle chose peut amener quelqu'un à la foi. Et je me souviens d'un témoignage que j'ai eu Un pasteur, je pense vous l'avoir déjà dit, qu'un pasteur était tellement fatigant que personne n'écoutait, quoi. C'était lourd. Et il s'en est rendu compte lui-même. Il dit, j'ai rien dit aujourd'hui, quoi. Et pour finir, à la fin, il fait un appel. Il y a quand même un qui lève sa main. Je dis, mais comment ça se fait? Parce que je me suis rendu compte que j'étais nul aujourd'hui. Tu as tourné la page de ta Bible, et je dis, je dois tourner la page de ma vie. Un rien parfois, mais le Saint-Esprit est là. Et la suite de notre récit nous montre un Jésus qui expliquant la relation entre les prophètes et lui, l'Ancien Testament et le Nouveau. Alors aujourd'hui, Jésus n'est plus présent physiquement, mais il nous a laissé son esprit, sans lequel cette prédication n'aurait pas pu avoir lieu. Alors pour terminer, voyons juste un peu l'effet qu'a produit cette rencontre. Et je vous lis les trois versets qui font suite à notre lecture et qui sont un peu la conclusion de notre récit. Entre les deux, il reste une partie que vous irez lire vous-même et je lirai une partie pendant la Sainte Cène. Luc 24, verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Entre l'engueulade de Jésus, qui le traite de stupide, et leur décision de retourner à Jérusalem, les disciples se sont laissés enseigner par le Maître. Et ils les ont invités à rester avec eux. Ils l'ont aussi invité à prendre un repas avec eux. On lira tout ce texte, mais vous le lirez aussi chez vous. Et encore, sans savoir qui il était vraiment. On ne peut pas vraiment, parfois, connaître Jésus à fond, mais on peut vouloir en savoir plus de lui et sur lui. Et ce n'est que là, au moment où il fait le geste du souvenir de sa mort, que les yeux s'ouvrent. Et ils l'ont reconnu. Leur réaction ne fait pas attendre. Il retourne directement à Jérusalem, le lieu saint, pour partager avec les autres. Et le verset 34 nous décrit vraiment la conviction des disciples d'Emmaüs. Le Seigneur est réellement ressuscité. Ils en étaient convaincus. Alors de cette conclusion, qui est de loin la meilleure, évidemment, Jésus est réellement ressuscité. Je vous laisse quelques questions pour vous rappeler notre partage de ce matin. Est-ce que je vois encore la main de Dieu dans ce monde bouleversé? Est-ce que je suis conscient que Jésus vient me rejoindre pour faire route avec moi? Peut-être que suite à certains événements qui se sont déroulés dans les lieux saints, dits saints, je suis déçu, je me suis éloigné de l'Église peut-être. Quel chemin ai-je suivi? Celui vers la campagne, de la réflexion ou de la remise en question sur Dieu et Jésus, ou celui qui me conduit vers Jéricho, où tout est permis, mais sur lequel je prends le risque de me perdre. Moïse disait de la part de Dieu, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Jésus, lui, est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, nous disait le prophète Ésaïe 42, 7. Croyez-vous que nous sommes encore clairvoyants? Ou avons-nous encore besoin que le Christ rompe le pain devant nous pour nous ouvrir réellement les yeux? Amen. Seigneur, nous voulons nous mettre devant toi. Nous avons encore tellement de choses à apprendre de toi. Oh Seigneur, romps encore le pain devant nous pour que nous puissions vraiment te voir et dire vraiment que tu es réellement ressuscité. Mais quand on revient toute la gloire, oh Seigneur, prends toute la place dans nos vies.